autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour nous demander pourquoi et comment cultiver à l'ombre des forêts. Ces forêts qui disparaissent au nord comme au sud et s'effacent du paysage, alors même que l'on ne cesse de découvrir leur importance et leur rôle pour l'équilibre de notre planète et des hommes qui l'habitent. L'heure est peut-être venue de s'interroger sur une autre manière de vivre auprès de nos arbres et avec nos forêts, en cessant peut-être d'opposer nature et culture, forêt et agriculture, primitif et civilisé, sauvage et domestique. Et si défricher la forêt n'était au fond pas si profitable, et si l'arbre était un maillon essentiel de notre humanité, et l'agroforesterie une belle piste à suivre sur les traces de notre invité, l'ethnobotaniste Geneviève Michon, autour de la question « Pourquoi cultiver à l'ombre des forêts ?» Bienvenue. Bonjour Geneviève Michon.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous à la veille du colloque des arbres en agriculture qui rassemblera chercheurs et spécialistes d'agroforesterie venus de tous les continents à l'université Paris-Descartes. Geneviève Michon, vous êtes ethnobotaniste, directrice de recherche à l'IRD, basée à Marrakech, spécialiste des relations des sociétés à la forêt. Vous venez de publier aux éditions Actes Sud un très bel ouvrage qui nous a inspiré cette émission, Agriculteurs à l'ombre des forêts du monde. De l'agroforesterie indonésienne à l'arganeraie marocaine, en passant par la châtaigneraie corse ou la palmeraie amazonienne, c'est finalement un autre rapport à l'arbre et à la forêt, mais aussi un autre modèle de développement agricole que vous voulez nous faire découvrir?
C'est exactement ça, c'est-à-dire que quand j'ai commencé moi à m'intéresser à ce que faisaient les agriculteurs indonésiens, puisque c'est là que j'ai commencé ma carrière dans ces milieux forestiers, je me suis aperçue que l'arbre était partout et qu'il n'y avait pas de distinction ni dans les pratiques ni dans le langage entre ce qui se référait à l'agriculture et ce qui se référait à la forêt.
C'est-à-dire, il n'y avait pas de séparation. Là.
Pas de séparation, une véritable intégration entre l'agriculture et la forêt, entre l'arbre et les champs. Et je me suis dit, mais ça c'est un modèle qu'on connaît pas. À l'époque, on parlait encore très peu d'agroforesterie, et quand on en parlait, c'était des modèles très agronomiques, hein, où on plantait les arbres en ligne, en quinconce. C'était pas du tout cette espèce d'exubérance très forestière qu'on retrouvait dans les systèmes de production entre guillemets agricole de ces agriculteurs de Sumatra.
Et c'est cela, donc, ces agriculteurs, ces agroforesteries vernaculaires que vous voulez nous faire découvrir.
Absolument.
Autour de la question, pourquoi cultiver à l'ombre des forêts? On commence, si vous le voulez bien, par quelques pistes de réflexion sonore avec le mix forcément agroforestier de Guillaume Ploquin.
Je ne vois pas ce qu'il y a de plus précieux sur cette planète que le sol.
Planter des arbres en agriculture, à quoi ça sert?
Le sol, c'est un espèce d'appareil digestif qui est capable de digérer tout ce qui tombe dessus.
Mais dans la majeure partie du monde, avoir des arbres avec ces cultures, avoir des bouts de forêt au milieu des champs ou des champs au milieu de la forêt, c'est normal.
L'île de Bornéo est l'un des derniers sanctuaires forestiers de la planète. Malheureusement, sa forêt recule dramatiquement.
Personne ne se soucie des forêts à présent.
J'ai traversé la Malaisie cet été, 500-600 km de plantation de palmiers à huile, pas un once d'agroforêt.
L'argan. Cette plante aux nombreuses vertus tant cosmétiques qu'alimentaires a la particularité de n'exister nulle part dans le monde ailleurs qu'ici, entre le Haut et le Moyen Atlas.
La vision de l'agroforêt, c'est la vision à long terme parce que on modifie la forêt, on modifie sa structure.
C'est un circuit fermé. La forêt se nourrit elle-même.
C'est notre vision, c'est une vision à l'échelle de plusieurs générations. Aujourd'hui, on est dans un système économique à l'échelle de même pas une génération.
Je perds d'abord la biodiversité. Deuxième étape, je perds la fertilité biologique naturelle.
Et un de ces jours, on s'apercevra que nos sols sont foutus. Je crois qu'on n'est pas assez prudent en Europe avec la bonne santé de nos sols.
J'ai affaire dans la forêt.
Comme le Seigneur des Anneaux, nous avons tous affaire dans la forêt. Geneviève Michon, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre?
Oui, j'adhère tout à fait à tout ce qui a été dit là. J'ai reconnu plusieurs voix, donc ça m'a fait plaisir.
Francis Allais notamment, autour de la question « Pourquoi vivre à l'ombre des forêts ?» On vit tout de même aujourd'hui dans un paradoxe que vous soulignez dans ce livre « Agriculteurs à l'ombre des forêts du monde » Geneviève Michon. Ce paradoxe, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de la forêt, de la protection nécessaire et de la disparition, de la déforestation. Et pourtant, les forêts ne cessent de disparaître et de s'effacer du paysage. Et c'est un lent, long et vieux processus.
Ce qui est un long et vieux processus, c'est l'éradication des paysans, des milieux forestiers, par les administrations en charge de ces espaces forestiers, donc les tutelles forestières. Et donc le paysan, l'agriculteur, l'éleveur a toujours été l'ennemi ancestral du forestier, parce qu'on pensait qu'il n'avait aucun intérêt à l'arbre et que le seul intérêt qu'il y avait, c'était de le couper pour vendre son bois, parce qu'on pensait que ces animaux ne faisaient que brouter tous les petits arbres qui germaient dans la forêt. Et donc on s'est vraiment évertué, pour des tas de raisons, à écarter ces paysans de la forêt. En Europe, puis ça a été transporté sous les tropiques. Donc en Europe, les agriculteurs ont reconstitué dans les espaces qui leur étaient dévolus des systèmes, leurs forêts paysannes, ces espaces de bocage très diversifiés qu'on a connus, qu'on connaît de moins en moins. Et sous les tropiques, bon, ils ont été plus longtemps, ils habitent toujours en forêt, et quand on habite en forêt, c'est... Alors effectivement, on peut faire des clairières pour les habitations, parce que c'est bon, pour des tas de raisons d'ensoleillement, d'éloignement des parasites, mais il est tout à fait logique de ne pas combattre l'arbre et donc de ne pas éliminer la forêt. Donc on a toujours accusé les paysans d'être la principale cause de la disparition des forêts tropicales. Les principales causes de la disparition des forêts tropicales, c'est bien les grandes politiques de développement agricole, de développement forestier qui favorisent le soja, qui favorisent l'exploitation forestière, qui favorisent le palmier à huile, et ça déforeste.
Qui uniformise et qui déforeste. Mais il y a aussi, et vous le rappelez, une forme de processus de civilisation. On a quand même voulu sortir de la forêt et on méprise quand même un peu les peuples de la forêt. Il y a quand même une idée que la civilisation, c'est de sortir de la forêt.
Oui, ça c'est quelque chose de très ancré chez nous. L'épopée de Gilgamesh, c'était bien civiliser l'homme en combattant la forêt. Donc c'est quand même relativement ancien. Et c'est toujours une idéologie qui a cours aujourd'hui. Moi, je me souviens avoir assisté à une cérémonie religieuse en forêt de Bornéo où le missionnaire était là. Il savait que des Pounanes, donc les Pounanes sont des populations nomades en forêt, il savait que les Pounanes n'étaient pas loin. Il s'est adressé aux Pounanes, il leur a dit il faut sortir de la forêt, Dieu n'est pas dans la forêt, tant que vous serez dans la forêt, vous serez avec Satan.
C'est terrifiant, alors qu'aujourd'hui on se rend bien compte qu'il est, enfin voilà, c'est complètement aberrant, c'est assez terrifiant. Qu'est-ce que c'est qu'une forêt? Comment la définir déjà? Parce qu'on a plein des forêts dans le monde, aussi celle de Bornéo, on a parlé des forêts d'Arganier, du bocage, des forêts tropicales, il y en a plein des forêts.
Mais il y a plein de forêts, moi je cherche pas à définir la forêt, j'ai cherché à comprendre ce que les gens déjà mettaient sous ce terme forêt, qui est un terme qu'on veut universel. La FAO a essayé de donner une définition universelle de la forêt, qui serait valable depuis la forêt boréale jusqu'à la forêt tropicale, en passant par les forêts des zones subsahariennes, ou périsahariennes plutôt, ce qui est absolument impossible. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que bon, nous, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a comme terme pour désigner la forêt? Donc, on a la forêt, on a le bois, on a le bosquet. Ça fait surtout référence à l'étendue de ces espaces boisés. Et puis, on n'a pas grand-chose de plus. Quand on regarde le vocabulaire français du 19e siècle, c'est-à-dire un moment où la forêt était encore très intégrée à l'espace agricole et à l'économie paysanne, il y avait 15, 20 termes pour désigner ces différents faciès forestiers, et ces termes faisaient référence soit à des usages, soit à des droits particuliers. Et le fait que notre vocabulaire se soit complètement appauvri montre d'abord à quel point nos relations à la forêt se sont appauvries, et montre aussi qu'on peut pas tout mettre sous un terme générique forêt. Bon, ça implique des arbres, mais même...
Et ça n'implique pas forcément le côté sauvage. La forêt, ça peut être, on va y venir, hein, mais domestique et domestiqué.
Oui, moi j'emploie ce terme de forêt domestique pour bien montrer que les agriculteurs qui ont vécu dans ces forêts, les ont utilisées, les ont modifiées, reconstruites, les ont vraiment intégrés à leur espace domestique, donc les ont domestiqués, avec parfois des vrais processus de domestication des arbres.
Qui sont intéressants et que vous allez nous faire découvrir autour de la question pourquoi et comment cultiver à l'ombre des forêts. On s'arrête puisque vous avez commencé du côté de l'Indonésie et la lisière de cette forêt indonésienne avec le guitariste Arahap Irwansyah. Guitariste indonésien Arahap Irwansyah sur cette compilation RFI Musique autour de la question pourquoi cultiver à l'ombre des forêts. Nous sommes en compagnie de l'ethnobotaniste Geneviève Michon qui nous fait découvrir les agroforesteries vernaculaires dans un très bel ouvrage Agriculteur à l'ombre des forêts du monde publié chez Actes Sud IRD Édition. Je vous propose tout de suite un nouvel éclairage en forme de point d'interrogation, celui d'un chercheur que vous connaissez bien, Pierre-Michel Forget, chercheur en écologie tropicale.
Je me souviens, il y a une trentaine d'années, quand j'ai débuté, on pensait que demain, l'agroforesterie serait vraiment la solution pour protéger la biodiversité dans les forêts tropicales, notamment dans les forêts d'Indonésie où l'agroforesterie permettait de préserver, en tout cas d'héberger 50% de la biodiversité. Or aujourd'hui, on peut voir que malheureusement, malgré tout cela, l'essentiel de ces forêts ont laissé la place à une espèce, le palmier à huile. Alors est-ce que de ton point de vue, finalement, on n'a pas tout raté, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Et est-ce que tu y crois encore aux agroforêts?
J'ai traversé la Malaisie cet été, 500-600 kilomètres de plantations de palmiers à huile, pas un once d'agroforêts. Et est-ce que les populations locales n'ont pas perdu pied là, face à justement à ces billets là, qu'apporte l'huile de palme?
Que pouvez-vous répondre à Pierre-Michel Forget, Geneviève Michon?
Je lui dirais que je suis aussi effarée que lui devant cette avancée à très grands pas du palmier à huile. Et bon,
ça rapporte immédiatement, le palmier à huile. Enfin, immédiatement, plus d'argent et tout de suite, disons, c'est ça.
Ça rapporte de l'argent, c'est-à-dire que ça procure vraiment aux agriculteurs des revenus à la fin du mois, des billets. Une partie de ces billets, ils doivent les rendre parce qu'ils sont endettés, parce qu'on leur donne souvent des plantations clés en main. Et donc, ils s'endettent pour 10-15 ans. Et puis, ils s'aperçoivent aussi que finalement, ils n'ont plus de fruitiers, ils n'ont plus de plantes médicinales. Mais donc, tout ça, ils doivent l'acheter.
Donc se soigner, ils doivent acheter, alors qu'auparavant ils avaient le savoir pour
voilà. Donc quand on fait le bilan, même d'un point de vue économique, bon, c'est intéressant, oui, de l'argent, c'est intéressant pour envoyer les enfants à l'école, et ça, on va blâmer personne de vouloir de l'argent pour la génération suivante, mais voilà.
Vous dites même d'un point de vue économique, au fond, ça ne rapporte pas tant que ça de ne planter que des palmiers à huile et de déforester tout le reste.
Ça rapporte quand même, parce que le marché d'huile de palme est toujours en pleine expansion, en particulier avec le marché asiatique, le marché chinois. Donc ça rapporte toujours, et par rapport aux autres cultures qu'on trouvait dans les agroforêts, qui sont des cultures beaucoup plus incertaines, soit d'un point de vue climatique, soit d'un point de vue économique, le palmier à huile, jusqu'à présent, rapporte des revenus conséquents. Mais voilà, je répète, les agriculteurs sont endettés, ils ont perdu toute la biodiversité qui accompagnait leur système d'avant, ils ont perdu beaucoup de contrôle sur leurs terres.
On sait que c'est pas la solution, mais comment faire autrement? On a la question d'un auditeur, alors c'est pas en Indonésie, mais Abdoulaye qui est à Niamey au Niger, il dit mais en Afrique, alors on considère la forêt à de la considération, enfin on a la considération pour la forêt plutôt, mais les pratiques agricoles se font évidemment dans un cadre de subsistance, donc y a-t-il un mode d'agriculture pour les forêts justement?
Il y a des modes de subsistance qui conservent l'arbre, donc c'est pas le fait d'être en agriculture de subsistance qui nuit à la forêt. Par contre, donc ce qu'on voit en Indonésie sur le palmier à huile, ce qu'on voit au Brésil sur le soja, ce qu'on voit au Cameroun sur le coton, c'est quand même l'influence déterminante des grandes politiques de développement agricole, des grandes politiques de développement forestier. Et contre ça, c'est vrai que les agriculteurs qui n'ont que leur petite pratique, leur petit savoir, souvent méconnus ou pas trop appréciés par les gens qui ont, entre guillemets, de l'éducation, ils font pas le poids.
Et quels sont ces savoirs, justement, ces pratiques méconnues qu'ont les agriculteurs qui vivent dans les forêts, des forêts, avec les forêts?
C'est des savoirs qui... Donc un très grand savoir sur l'écologie des arbres, sur l'écologie de la forêt. Et puis... un savoir alors accumulé au fil des générations sur comment répondre les arbres quand on les traite d'une façon ou d'une autre.
Comment répondre les arbres?
Qu'est-ce qu'on peut faire avec un arbre? Qu'est-ce qu'on peut? Il y a des exemples absolument fabuleux. Là, on n'est plus en Indonésie, on est au Maroc, et c'est des résultats de recherches qui ont été menées par des collègues qui travaillent avec moi à Marrakech, qui montrent que sur les frênes, sur les genévriers dans le Haut Atlas, il y a des pratiques de taille qui permettent à l'arbre de produire en même temps du fourrage, des perches, des poutres, et ceci pendant des années sur des générations et des générations. Il y a des pratiques de formation d'arbres à partir des frênes. Ça, c'est un travail de Didier Génin et Mohamed Aïfriki. Donc, on forme un arbre à partir de 7 à 20 plantules qu'on plante tout ensemble. Donc on a 20 germinations, et quand ces germinations sont assez hautes, on attache toutes les tiges
et on fait arbre.
Il y a coalescence des tiges, il n'y aura qu'un seul tronc, mais c'est un tronc avec 20 systèmes racinaires différents. Donc c'est des arbres qui ont une vigueur et une productivité bien supérieure à ce qui serait issu d'une seule plantule.
Et ça, c'est un savoir aussi évidemment accumulé, un savoir traditionnel que vous avez envie quoi, à la fois de faire connaître, de cultiver et de préserver?
De faire connaître et bien sûr de préserver. Et puis il serait intéressant que les chercheurs, comme font mes collègues, s'intéressent valident en quelque sorte l'intérêt de ces pratiques, soit sur la physiologie de l'arbre, sur la productivité de l'arbre. Donc là c'est, les chercheurs s'intéressent peu à ça.
Alors on n'a pas besoin savoir traditionnel.
On n'a pas besoin. Ça me gêne toujours de faire valider ou de vouloir valider les savoirs traditionnels par la science. Mais là, on a quand même des savoirs absolument incroyables que les forestiers n'ont jamais explorés. Et ben, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut les mettre à profit dans de nouveaux systèmes agroforestiers?
Oui, entre forestiers et savoirs agricoles.
Voilà, comment on peut, je ne sais pas s'il faut les moderniser, mais en tout cas les généraliser, les étendre, les faire connaître à d'autres régions du monde.
Continue de chercher comment cultiver à l'ombre des forêts. Ce sera dans 3 minutes, juste après le flash d'info. On se retrouve auprès de nos arbres, de toutes ces agroforesteries vernaculaires du monde. À tout de suite.
De la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie. Autour de la question « Pourquoi cultiver à l'ombre des forêts ?», nous sommes en compagnie de l'ethnobotaniste Geneviève Michon, directrice de recherche à l'IRD, qui vient de publier chez Actes Sud « Agriculteurs à l'ombre des forêts du monde », un magnifique livre pour découvrir, redécouvrir les agroforesteries vernaculaires et un autre rapport aux arbres et à la forêt. On écoute le célèbre botaniste Francis Allais.
Moi, ce que j'aime le plus, c'est les relations entre les arbres et les animaux, entre les plantes et les animaux. Je dis. Un arbre qui attire un animal avec une odeur de fleurs qui le séduit, je trouve ça superbe. Ensuite, on n'a plus besoin de cet animal, mais quelques mois après, on va avoir besoin d'autres animaux, plus lourds ceux-là, pour disperser les graines. Alors, ça peut être les éléphants, c'est très souvent les singes. Et l'animal, il pollinise ou il disperse les fruits, les graines, sans même s'en rendre compte.
Les hommes, eux, ils s'en rendent compte, Geneviève Michon, ils savent ce qu'ils font, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire avec les arbres, avec le sol. Vous voulez réagir à ces propos de Francis Allais ?
Oui, moi je dirais, moi ce qui me fascine, c'est vraiment les rapports entre les hommes et les arbres et la diversité de ces rapports.
Entre les hommes et les arbres, hein, et partout, et ces rapports sont différents partout sur la planète.
Il y a des choses très universelles, et il y a des choses très localisées, mais la richesse de ces rapports est universelle.
Et puis, il y a aussi le rôle des arbres en eux-mêmes. Vous rappelez, hein, dans ce livre, le rôle des arbres en tant que pivot de la production agricole. Chaque arbre est important pour ce qu'il génère autour aussi.
Oui, et l'arbre s'intègre très bien dans des systèmes qui peuvent être des systèmes extrêmement cultivés, même des systèmes céréaliers, comme ce qu'on trouve au Maroc, hein, là, justement dans cette forêt d'Arganier. Partout où il y a, dans toutes les zones cultivées en céréales, il y a d'énormes, somptueux Arganiers.
Ça ne s'oppose pas, l'un n'empêche pas l'autre,
l'un
c'est ça.
L'un n'empêche pas l'autre.
Alors l'Arganier, c'est la couverture, hein, de votre livre. Quelle est la spécificité de cet arbre ? Déjà, vous nous le décrivez.
Ah, c'est un arbre, moi je trouve que c'est un arbre magnifique, fascinant, qui a parfois des allures d'animal. C'est un arbre qu'on trouve sous diverses formes depuis ces arbres très majestueux. C'est comme des très beaux chênes au milieu de nos champs. Ils ont cette grande majesté de beaux arbres avec un beau tronc. Et on les trouve jusqu'à une forme qu'on appelle les rochers verts. Donc c'est vraiment ce que ça veut dire. C'est une espèce de masse informe, souvent assez ratatinée sur le sol, très dense. On voit même pas que c'est des feuilles parfois, mais c'est vert. Et les chèvres viennent brouter là-dessus.
L'herbe est plus verte sous les arganiers.
L'herbe est plus verte, les plus vertes sous les arganiers qui ont une belle couronne et un beau tronc, parce que sous ces rochers verts, il n'y a pas grand-chose. Mais cette plasticité de l'arbre, de l'arganier, mais de l'arbre en général, on peut se dire, quand on voit un rocher vert, c'est un arbre maltraité, c'est terrible. On peut avoir cette espèce de réaction très humaine en se disant, mais comment on peut traiter un être vivant comme ça ? Ben, il suffit d'enlever la pression pastorale, donc d'enlever ces chèvres qui régulièrement tous les jours viennent grignoter l'arganier, pour qu'il ait plus besoin de cette défense de rocher vert, donc il aura moins d'épines, ses feuilles vont devenir plus grosses, et puis très vite il y a une tige qui va sortir, et à partir de cette tige-là, on pourra refaire un arbre, à condition que les chèvres ne viennent pas rebrouter le tout. Donc l'arbre est un être totalement plastique.
Un être, hein.
Ah oui.
Vous rejoignez Francis Allais, l'arbre vit, hein.
Oui, oui, ça pour moi, c'est... Oui. Et les agriculteurs ont compris cette plasticité et l'ont mise à profit dans leur système. Et c'est ça ils ont compris ça. Et c'est ça que moi,
au
je
Maroc
trouve fascinant.
Au Maroc particulièrement ou partout, finalement,
partout,
où vous avez été? Oui.
Partout. Ils ont compris ça et... Bon, je vais pas trop taper sur les forestiers professionnels, mais je trouve que leur connaissance en matière de gestion de l'arbre est infiniment plus pauvre que celle des agriculteurs.
Alors qu'on a longtemps opposé les deux. On a dit que les forestiers, ils connaissaient les arbres, et que les agriculteurs, ils les détruisaient. Voilà. Enfin,
les forestiers savent comment faire des beaux arbres avec des grands fûts pour avoir une production de bois utilisable optimal, c'est-à-dire un cubage de troncs. Et ça, bon, pour ça, il faut faire soit des forêts assez serrées, soit des plantations assez serrées. Les agriculteurs, ça les intéresse pas d'avoir un grand fût, parce qu'ils n'ont pas besoin de tant de bois que ça. Et puis, parce que quand on doit aller récolter des fruits, autant qu'ils soient pas à 40 mètres de haut. Mais par contre, ils ont besoin de fruits, ils ont besoin de feuilles, ils ont besoin d'écorces, ils ont besoin de branches, de tiges, de perches. Et donc, de par la leur façon de traiter les arbres, de les tailler, ils vont pouvoir soit favoriser une de ces productions, soit favoriser plusieurs de ces productions ensemble.
Et est-ce qu'aujourd'hui, les forestiers, ils écoutent un peu plus les agriculteurs, ou est-ce qu'ils changent justement dans leur... est-ce que la connaissance est un peu plus en partage? Est-ce qu'on méprise moins les agriculteurs autour de l'arbre?
On s'est rendu compte, en particulier dans les forêts du Sud, sous les tropiques, qu'il était maintenant difficile de gérer la forêt sans tenir compte des populations, soit qui habitent dans la forêt, soit qui en sont riveraines. Donc il y a énormément de projets maintenant de ce qu'on appelle foresterie communautaire, sociale ou autre. Mais c'est quand même toujours faire participer les agriculteurs à des projets définis par les forestiers. C'est rarement dans l'autre sens.
Vous aimeriez que ce soit dans l'autre sens?
Bien sûr. C'est-à-dire comment ces deux connaissances, ces deux domaines de connaissances qui sont entièrement complémentaires pourraient amener à gérer de façon pacifiée et de façon réellement commune une forêt qui produirait du bois, des fruits, une forêt dans laquelle les animaux pourraient aller pâturer.
Et les hommes pourraient toujours y vivre aussi.
Pour l'instant, on est dans deux systèmes qui sont un petit peu incompatibles et qu'on retrouve dans toute cette idéologie de la conservation. Donc la conservation, conserver une belle forêt, c'est en général éliminer ses habitants humains. Les autres.
Autour de la question pourquoi cultiver à l'ombre des arbres et des forêts, je vous propose un nouvel éclairage, et celui de la pédologue Tiphaine Chevalier, de l'IRD également, qui participera avec vous et d'autres chercheurs au colloque donc demain et après-demain sur l'agroforesterie des arbres en agriculture, c'est le titre du colloque, à l'Université Paris Descartes. Elle travaille, Tiphaine Chevalier, sur l'agroforesterie comme outil de lutte contre le changement climatique. On l'écoute, interrogée par Alice Milo.
Donc l'intérêt de l'agroforesterie pour la lutte contre le réchauffement climatique, c'est sa capacité à stocker du carbone dans les sols. En fait, si on regarde les stocks globaux de carbone, donc il y en a beaucoup dans l'atmosphère, c'est le CO2 que tout le monde connaît. Mm-hmm. Dans les océans, les sols et les biomasses, il y a aussi des gros stocks de carbone.
Planter des arbres, ça permet de maintenir ce stock de CO2 dans la terre.
Voilà, ça va stocker en gros 200 à 300 kilos de carbone par hectare et par an. En fait, via la photosynthèse, les arbres synthétisent de la biomasse, des feuilles, des branches, des racines. Et tout ça, c'est des entrées de carbone pour les sols. Donc, soit l'herbe, soit les arbres qui prélèvent le CO2 de l'atmosphère, qui constituent ensuite sa biomasse. Et puis, suite à la mort, soit des feuilles, soit de cette végétation spontanée entre les arbres, qui va alimenter le stock de carbone du sol. Donc, en fait, nous, quand on s'intéresse au climat, on parle que de carbone, mais en agronomie, on parle de matière organique. La matière organique des sols, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps pour la fertilité des sols, sa structure. C'est dans les pays en voie de développement, souvent ça peut augmenter les rendements. Puis c'est aussi une source, ça diversifie les sources de revenus de l'agriculteur selon ce qu'il a planté comme arbre.
En tout cas, vous encouragez du coup les agriculteurs finalement à planter des arbres dans leurs champs.
Pour ce qui est de l'atténuation des concentrations de CO2 dans l'atmosphère, effectivement, l'agroforesterie, c'est un système qui permet de stocker du carbone dans les sols.
Du rôle des arbres dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans la protection des sols. Vous voulez réagir à cet éclairage de Tiphaine Chevalier, Geneviève Michon?
L'arbre est absolument indispensable au maintien de sols vivants, de sols productifs. Ça, heureusement qu'on le redécouvre maintenant chez nous à travers cette nouvelle agroforesterie.
On le redécouvre.
Oui, on le redécouvre vraiment. C'est-à-dire, comme disait Francis Allais en début de cette émission, nos sols sont dans un état absolument dramatique. Il n'y a plus de matière organique, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de microfaune, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus de mycorhizes. Les mycorhizes sont donc ces mycéliums de champignons, cette partie souterraine du champignon qui est en général associée aux racines, aux racines les plus fines.
Aux racines des arbres.
Aux racines des arbres, pas uniquement des arbres, des herbes.
Des plantes.
Aussi. C'est quelque chose qu'on, voilà, qui, c'est très difficile à étudier, ça se passe sous le sol, c'est quelque chose aussi qu'on connaissait peu il y a 10, 15 ans et dont on s'aperçoit de chaque jour un peu plus de l'importance considérable à la fois pour la croissance des plantes, pour l'équilibre d'un écosystème. Bon, je saurais pas vous en parler, c'est pas du tout ma.
Mais la biodiversité, au fond, se trouve d'abord dans le sol, en fait, et c'est donc grâce aux arbres, aux plantes, que le reste vient. C'est ça aussi, c'est ça qu'on a un peu oublié.
C'est ça qu'on a un peu oublié, c'est-à-dire sans sol vivant et sans mycorhizes, il est très difficile d'établir des cultures. On peut établir des cultures annuelles en ajoutant tout ce qu'il faut pour les nourrir. Mais les mycorhizes synthétisent des minéraux qui nourrissent les arbres. On n'a pas besoin de rajouter de l'engrais.
Qu'est-ce qui pousse autour des arbres? Autour de chaque arbre poussent des choses différentes, Geneviève Michon?
Oui, après, il y a des arbres qui sont réputés pour n'avoir aucun compagnon. L'eucalyptus en particulier, on dit que sous l'eucalyptus, il ne pousse rien. Sans doute à cause de substances émises par les racines ou émises par les feuilles. Justement, l'arbre est plus vert sous les arganiers. Moi, j'avais écrit ça parce qu'on était en février 2013 avec Alain Canet dans l'Arganeray. Il y avait eu un an et demi de sécheresse, pas du tout de pluie, ni en automne,
au
ni
Maroc,
en hiver au Maroc. Pas un brin d'herbe nulle part, sauf à l'aplomb de la couronne des arganiers. C'est-à-dire qu'au pied des arganiers, c'était tout vert. C'est-à-dire que l'arganier a créé un microclimat sous sa couronne qui permettait à l'herbe de germer. Et c'était les seules taches vertes, donc les seuls endroits où les animaux pouvaient venir se nourrir en dehors des buissons et...
D'où l'intérêt, on le sait, de préserver les forêts. On parle beaucoup des forêts tropicales. Vous avez aussi un chapitre consacré aux châtaigneraies corses. On a un peu oublié le rôle de ces châtaigneraies qui ont pourtant nourri des générations.
Qui ont pourtant nourri et qui ont soutenu une densité de population qui était au début du 19e, fin 18e, la plus élevée d'Europe. En Castanitch, c'est là où il y avait... plus d'habitants au kilomètre carré en Europe grâce aux châtaigniers qu'on appelait l'arbre à pain. Et donc c'est des systèmes qui ont un peu périclité au moment de l'exode rural, de l'industrialisation. Les châtaigniers ont aussi beaucoup souffert parce qu'ils ont été énormément exploités par les industries de tanins. C'est-à-dire qu'on extrayait du tronc des châtaigniers des tanins pour la fabrique des cuirs. Et puis... voilà, depuis les années 80, de nombreux agriculteurs ont retrouvé ce chemin vers la châtaigneraie en essayant de réinventer des pratiques, mais aussi de réinventer une nouvelle façon de valoriser les produits de la châtaigneraie.
C'est-à-dire de s'en servir autrement, c'est plus la main mise sur la nature, on extrait ce qui nous sert, mais on valorise ce qui existe.
On valorise ce qui existe et on essaye de nous donner une nouvelle valeur à ces produits qui étaient autrefois des produits c'était le pain du pauvre, la châtaigne. C'était vraiment les moins que rien, ceux qui mangeaient de la châtaigne. Et là, avec tout un travail qui était fait aussi bien en Corse que en Ardèche, dans les Cévennes, il y a eu une réhabilitation grâce à cette action collective pas uniquement des agriculteurs, mais du milieu rural en général, pour dire, les produits de la châtaigneraie sont des produits nobles. Et là, on le voit, il y a un engouement pour tout ce qui est farine de châtaigne, parce que c'est une des rares farines sans gluten. Et donc, une réhabilitation de cette nourriture du pauvre en nourriture noble, et donc plutôt pas mal valorisée à l'heure actuelle.
On se rend compte qu'autour des forêts et des arbres, ce sont un peu les mêmes questions quand même qui se posent au nord et au sud.
Oui, c'est ça que je trouve, et c'est un peu pour ça que j'ai fait ce livre, c'est que quand j'ai commencé à travailler en Indonésie, on m'a dit « Ouais, mais ce que tu racontes, c'est l'Indonésie, on trouve pas ça ailleurs. » Puis en voyageant un peu à droite à gauche, en parlant avec des collègues, on m'a dit « Non, mais en Afrique, il n'y a pas les agroforêts indonésiennes, mais il y a des agroforêts à cacao, à café. » J'ai vu un peu partout dans le monde les façons de cultiver le café sous ombrage. C'est des véritables agroforêts. Ça se trouve en Inde, ça se trouve en Éthiopie, on trouve ça au Costa Rica.
Des agroforêts pour le café.
Agroforêts pour le café. Le café est une plante de sous-bois, donc il se trouve très bien à l'ombre sous une canopée de grands arbres. Après, on m'a dit « C'est une spécificité tropicale. » Et quand je suis arrivée dans le monde méditerranéen, j'ai vu que on retrouvait la même chose. Donc à la fois la même façon d'intégrer l'arbre à la production, les mêmes savoirs autour de l'arbre et la même opposition entre le savoir forestier, les politiques forestières et agricoles et ces dynamiques des systèmes paysans.
Autour de la question pourquoi et comment cultiver à l'ombre des forêts, non seulement c'est possible, mais on le voit bien, c'est profitable à la terre et surtout aux hommes. On fait un détour du côté de ce monde méditerranéen où vous habitez, sous l'ombre de l'Arganier du Maroc. On écoute Indy Zara sur RFI.
حفوز حفوز وين دوينو إيران فتو إيميك سيميك حفوز حفوز وين دوينو إيران فتو I will take the train leave the sun for the rain
Maintenant, imic, simic, en berbère et en anglais dans le texte. Indy Zara sur RFI. Autour de la question pourquoi et comment cultiver à l'ombre des forêts, ici comme ailleurs, au nord comme au sud, et même en ville, je vous propose un dernier éclairage, celui du philosophe de l'urbain Thierry Pacaud, qui était récemment notre invité.
D'abord, l'arbre est un ami de l'homme, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut converser avec l'arbre, il faut le caresser, il faut le saluer le matin quand on passe dans un parc. Il faut l'adopter et l'entretenir, évidemment, avec beaucoup de générosité. La question que j'aimerais lui poser, c'est celle de la présence d'une agroforesterie en ville. Parce que nous le savons par la toponymie, il y a quand même des bois, il y a quand même des champs dans les noms des rues du passé. Et donc, ça laisse entendre qu'il y avait une forêt. Et puis, si je prends des auteurs que j'aime bien, comme Aldo Leopold, c'était un Américain qui a lancé un plan de reforestation aux États-Unis. Parce que quand l'urbanisation se met en branle, elle détruit les forêts. Elle détruit les forêts, on le voit en Afrique noire, elle détruit les forêts parce qu'il faut d'abord construire des baraques en bois, parce qu'il faut cuire les aliments le midi, etc. Donc, il n'y a pas ce juste équilibre entre l'humain et le vivant, et dans le vivant, je mets l'arbre, évidemment, qui est un grand ami, puisqu'il nous donne généreusement son ombre, il nous donne ses fruits, il nous donne son écorce, sur laquelle on va graver comme ça un cœur.
Et donc comment faire pour refaire lien en fait, c'est
voilà,
ça aussi.
Voilà, comment reconstituer lorsqu'il y a eu un premier congrès international des villes à Gand en 1913, Hugo Convens qui s'occupait du patrimoine naturel en Prusse invitait tous les congressistes partout à dire à leur municipalité acheter une forêt urbaine.
Une forêt urbaine, est-ce que c'est pousser le bouchon ou l'arbre un peu trop loin, Geneviève Michon?
Ah bon, moi, je rêve non pas de forêt urbaine, mais de cité dans la forêt, donc on sera plus...
Ah, carrément
Bon, c'est
une clairière, une cité, elle pas une clairière, une cité dans la forêt.
Voilà, une cité dans la forêt. Donc on inverse la matrice là, c'est pas des forêts dans la ville, c'est plutôt des villes dans une grande matrice forestière. Mais bon, là c'est du rêve, mais par contre oui, il y a
un rapport à l'arbre et à la forêt à changer, enfin à inverser ou à retrouver, comment vous diriez ça?
Bon, on a des arbres dans nos villes, hein. On a des arbres qui sont des arbres d'ornement, qui sont des arbres qu'on taille souvent en dépit du bon sens. On pourrait imaginer avoir plus de fruitiers, par exemple, avoir plus d'arbres utiles plutôt que des marronniers. C'est joli, les marronniers, c'est bien pour les enfants, on shoote dans les marrons, mais bon, on pourrait aussi
les
avoir
arbres utiles, oui.
On pourrait avoir plus de cerisiers, plus de pommiers, on pourrait dans nos comme ce qui se passe au jardin du Luxembourg, si je ne me trompe, se servir de ces grands parcs urbains pour soit conserver, soit réhabiliter, soit faire connaître des variétés anciennes de fruitiers, enfin éventuellement même produire. Puisque l'apiculture s'est réinstallée en ville, pourquoi pas l'agroforesterie? Maintenant, on fait du miel en plein Paris, donc pourquoi on ferait pas de l'agroforesterie au jardin du Luxembourg? C'est tout à fait possible, hein. Il y a rien de...
Au fond, vous auriez envie, enfin, vous souhaiteriez qu'on se rapproche des arbres, on peut le dire comme ça?
Oui, qu'on n'oublie pas, qu'on se rapproche des arbres, qu'on les intègre plus dans notre vie quotidienne, qu'on les relègue pas dans cette espèce d'espace qui est un faux espace de, entre guillemets, de nature. Si on a un commerce,
qu'on sépare pas.
Si on a un commerce régulier avec les arbres, un commerce régulier, une fréquentation régulière avec les arbres, je pense qu'on les voit pas pareil. Par contre, voilà, maintenant chez nous, la forêt, c'est un peu l'emblème de la nature, de ce qui reste. Il y a rien de moins naturel que le bois de Boulogne ou que la forêt de Fontainebleau, mais peu importe.
Il y a plus de forêt. Enfin, naturel, ça veut pas dire grand chose pour vous.
Naturel, pour moi, ça veut pas dire grand chose. L'homme est sur terre depuis suffisamment longtemps pour que les forêts naturelles. On pourrait avoir un débat là-dessus. Il y a des forêts plus ou moins anciennes, plus ou moins marquées par l'activité humaine. Qu'est-ce que ça veut dire naturel? On fait partie de la nature, donc.
Oui, donc faudrait tout repenser comme ça sur le modèle de la forêt, de cette forêt domestique dont vous parlez.
Oui, moi je pense que s'il y a un enseignement à tirer de ces exemples paysans, c'est bien ça, c'est de concevoir cette intégration entre la production et la conservation, de pas les opposer. Nous, on pense que on va pouvoir racheter tous les excès du productivisme en conservant des forêts, en les mettant à part. Or, c'est la même chose. Plus on met des forêts à part, et plus on va se dire, ben, on peut y aller de l'autre côté. Allez, on produit à fond et on abîme à fond tous ces processus naturels. Hein. Je parle pas de la nature, mais de ces processus. Et là, ben, les agriculteurs, ces agroforesteries vernaculaires nous montrent qu'il y a une troisième voie qui ne part pas du même mode de pensée. C'est vraiment orthogonal à cette façon de penser qu'on a chez nous, d'un côté la production et de l'autre la conservation. Ils nous disent, ben non, regardez, on peut conserver et on peut produire en même temps. Alors, on sera pas au maximum de production pour chaque culture, on sera pas au maximum de conservation pour chaque espèce, mais il y a un équilibre qu'on peut trouver. Ce qui n'empêche pas de mettre à part des forêts, si on veut préserver des tigres et des éléphants, il faut bien des grands pans de forêt sans trop d'activité humaine à l'intérieur, même pour certaines espèces végétales.
Mais il y a un équilibre à trouver pour le reste.
Voilà,
il y a une
grande
proximité à retrouver.
Une grande place pour le reste et ça nous fait envisager non seulement de façon différente, non seulement notre rapport aux plantes, mais le rapport des sociétés, à l'intérieur des sociétés, pour ce traitement des plantes. Donc, plus de solidarité entre les générations, plus de...
Ça va jusque-là, d'avoir un autre rapport avec les plantes, avec les forêts,
avec les
arbres.
Quand on plante un arbre, et ça c'est la dernière citation du livre, quand on plante un arbre, on ne le plante pas pour soi, en général, on le plante pour les générations qui viennent.
Parce que c'est une autre échelle que la nôtre.
Quand on hérite d'un arbre, et ben, non seulement on est reconnaissant à ceux qui l'ont planté, mais on va en planter un pour ceux qui viennent.
Votre arbre préféré à vous, c'est lequel? C'est l'arganier qui est en couverture de ce livre ou...
Ah, moi j'adore l'arganier, mais j'adore aussi le dourian qui est...
Le dourian. Décrivez-le-nous, le dourian.
C'est un arbre, alors là, il n'a rien à voir avec l'arganier. L'arganier, c'est un petit arbre avec un petit tronc et très étonnant et très multiforme. Le dourian, c'est un arbre on trouve des troncs qui font 30 mètres de long et au-dessus une couronne très régulière, un petit peu argenté.
On le trouve où?
On le trouve en Asie du Sud-Est en général. C'est un arbre, là, c'est pareil, on sait pas. C'est un arbre cultivé, donc on connaît pas les ancêtres sauvages. Donc on sait pas s'il est sauvage, domestiqué. Il est domestiqué, mais il fait toujours 40-45 mètres de haut dans les forêts, dans les agroforêts de Sumatra.
Et il y a beaucoup d'ombre en dessous?
Il y a beaucoup d'ombre en dessous, et puis surtout, il produit des fruits dont on...
Les durians. Hein.
Des durians, qu'on adore ou qu'on déteste, je fais partie de ceux qui les adorent.
Qui ont un parfum spécial, assez prononcé. Hein.
Assez prononcé.
Merci infiniment d'être venu en direct, nous faire partager toutes ces pistes, tous ces parfums en agroforesterie, dans les forêts du monde et surtout ces arbres du monde. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Geneviève Michon, ouvrage magnifique publié chez Actes Sud, IRD Éditions, Agriculteurs à l'ombre des forêts du monde, les agroforesteries vernaculaires, et c'est un magnifique argagnier qui est en couverture de ce livre. Merci à vous. Vous partez quand au Maroc?
Samedi.
Après le colloque.
Après le colloque, voilà.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, comme tous les vendredis, c'est Sophie Joubert que vous retrouverez, amis auditeurs, à ce micro. Quant à nous, Guillaume Ploquin à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski, nous vous donnons rendez-vous lundi pour nous poser ensemble toujours plus et toujours de nouvelles questions. D'ici là, très bonne fin de semaine à tous. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert et rapprochez-vous des arbres, ça ne fait pas de mal. Merci de votre fidélité et de votre interactivité. Dans quelques instants, dans une poignée de secondes, un nouveau journal sur RFI.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.